cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Quelle histoire épouvantable que le mari de cette enseignante qui a été tuée au Texas.
Oui, exact. Et puis c'est la famille en fait de cet homme-là qui a confirmé qu'il est décédé d'une crise cardiaque après avoir vu sa femme mourir dans cette tuerie de Uvalde. Alors, c'est sa nièce, elle a dit, et je te cite les paroles exactes, là, traduite en français, « C'est avec une extrême tristesse que je vous annonce aujourd'hui le décès du conjoint de ma tante Irma. Joe Garcia est mort de chagrin. Je n'ai pas de mots pour vous dire ce que nous ressentons. » Bon, bien évidemment, c'est la perception, c'est la perception des proches, là. On ne meurt pas de chagrin, mais on meurt un peu quand même.
Mais il n'a pas pu supporter.
Il n'a pas pu supporter le deuil, peut-être, oui.
C'est épouvantable, mais ils avaient des enfants?
Oui, ils avaient des enfants aussi. Et selon ce que rapporte NBC News, il aurait eu un malaise après qu'il ait déposé des fleurs sur un des lieux de recueillement à Uvalde. Sa femme, Irma Garcia, est enseignante de quatrième année. Donc, c'est dans sa classe, entre autres, qu'est entré le tireur. Et elle serait morte en tentant de protéger ses élèves. C'est d'autant plus horrible. Elle était mariée depuis 24 ans. Elle avait 4 enfants. Elle aimait les plaisirs tout simples, comme faire du barbecue en famille, puis des petites croisières dans le coin du Texas. Nous rapportons un article reproduit dans le Journal de Montréal.
Ces enseignantes sont mortes en tenant des enfants dans leurs bras.
Oui, c'est fou, hein? C'est fou, hein? J'ai continué cette semaine. Tu sais que dans nos chroniques cette semaine, on s'intéresse beaucoup aux chiffres derrière la violence par arme à feu. On s'intéresse beaucoup aussi aux études, au manque de financement des études pour se pencher par la lorgnette de la santé publique, des problèmes de santé publique sur la violence par arme à feu. Et je faisais un peu l'inventaire de ce qui existait aussi comme ressources, parce que c'est pas les ressources statistiques qui manquent, en tout cas, parce qu'il y a everytownresearch.org, qui est un site Internet dont les données sont réputées à être extrêmement fiables, et qui se porte vraiment sur les tueries de masse aux États-Unis. Et j'ai quelques chiffres pour toi ce matin. Depuis 2009, il y en a eu 274 aux États-Unis, dont le résultat est 1536 morts et près de 1000 personnes blessées. Donc ça, c'est le chiffre brut. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on tente de faire dire à ces chiffres-là, ce qu'on fait dire à ces chiffres-là, parce que c'est de l'outil statistique, c'est pas une impression. Donc, écoute bien les critères. La majorité des tueries de masse, parce qu'il faut bien dire qu'une tuerie de masse, selon la définition qui est acceptée aux États-Unis, c'est 3 victimes ou plus. D'accord? Alors, prenons ça pour acquis. La majorité, donc, de ces tueries de masse surviennent dans des domiciles privés, plutôt que dans des endroits extrêmement fréquentés, comme une école. Oui, c'est ce que nous disent ces chiffres-là. La majorité des tueurs de masse avaient une interdiction de posséder des armes à feu. La majorité des tueurs de masse ont, dans les semaines ou les jours précédant leur forfait, montré des signes de détresse. Les violences domestiques, font partie, si tu veux, du portrait là de la majorité de ces crimes de masse là. Et ce qui est très intéressant aussi, puis ça on le sait maintenant, c'est que les tueries de masse implique normalement là des chargeurs à haute capacité dans le plus de cas.
On a perdu Félix, malheureusement. Oui, OK.
Non, je t'ai retrouvé, Richard. Okay. On nous dit que la tuerie de masse affecte de manière irrémédiable ceux qui en sont témoins, c'est bien ça.
Et ça montre, c'est des problèmes de santé mentale aussi. Là. Je veux pas reprendre le discours de la NRA qui dit oui, mais c'est pas le gun qui tue, c'est la personne qui tient le gun. C'est les deux. C'est la personne qui est en détresse. Mais si cette personne-là avait un couteau dans les mains, une fourchette ou un revolver plutôt qu'une arme semi-automatique, ne ferait pas autant de dégâts.
Ben non, mais vraiment, c'est comme je te disais hier dans le lobby pro-arme à feu de la NRA qui a réussi en 1996 à faire voter dans une loi omnibus là une interdiction pour le CDC aux États-Unis de financer la recherche sur les violences par arme à feu en disant que un fusil c'est pas une maladie, donc le CDC peut pas faire des recherches là-dessus. Mais comme tu dis, si une personne présente des signes bien clairs de maladie mentale, l'arme peut devenir l'extension de ce que fait faire la maladie aussi. Alors, tu vois, c'est un peu ça, là.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a deux ados ici qui ont été condamnés pour avoir planifié une tuerie dans une école.
Pas une peine trop lourde, par contre. Deux adolescents, nous rapporte Michael Nguyen dans le Journal de Montréal ce matin, qui se sont inspirés de la tuerie de Columbine pour essayer de recréer ce carnage-là dans une école de Saint-Michel. Ils s'en sont sortis avec une probation. Ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'est qu'aider avec deux autres adolescents de 16 ans. Ils voulaient cibler une école secondaire du quartier Saint-Michel, leur école, mettre le feu après que le feu ait été allumé, tirer sur ceux qu'on veut tirer, je cite, en diffusant de la musique en même temps pendant le massacre. C'est un peu élevé, n'est-ce pas?
Mais ils avaient vraiment planifié ça, ou c'était pas une blague, là?
Non, c'était pas une blague. Il y avait une état de planification dans ça. Il y en a un des gens qui s'était procuré un livre qui expliquait comment fabriquer un engin explosif. Il y en a un autre qui disait avoir contacté des gens pour se trouver des pistolets, des fameux Tech-9. Et il y en a un qui a dit, ça va être la dernière journée de cours pour certains. Préparez-vous pour le party. On va faire l'histoire.
À Montréal, ça.
À Montréal. Donc, tu sais, je tends à penser que cette violence-là qui commence, cette violence à tout prix qui commence, je trouve, à s'imbriquer un peu dans nos mœurs avec la violence par arme à feu à Montréal.
Félix, on va faire la liste, là, Polytechnique, Concordia, le Métropolis,
Dawson.
Il y en a eu, là, des histoires comme ça ici. Là, on n'est pas à l'abri de ça du tout.
Non, on n'est pas à l'abri de ça du tout. Je me demande qu'est-ce que la culture des armes à feu viendra. Tu sais, on en parle beaucoup, moi et toi, là, de cette culture qui est importée beaucoup, beaucoup des États-Unis, mais qui est venue s'imbriquer dans les mœurs un peu à Toronto, dans la ville reine au cours des dernières années, puis qui a fait son entrée à Montréal aussi il y a quelques années, puis qui finalement aujourd'hui fait plusieurs victimes innocentes souvent. Alors je me demande s'il va nous arriver quelque chose à un moment donné qui aura un lien direct avec la disponibilité des armes à feu, parce que si je ne m'abuse, dans le cas exemple, puis pensons aussi à Denis Lortie à l'Assemblée nationale.
Ben oui, écoute, la Grande Mosquée de Québec aussi, qu'on n'a pas nommé tantôt.
Alexandre Bissonnette, oui, qui d'ailleurs attend un jugement important de la Cour suprême ce matin, hein, tu le sais, il faut le rappeler.
Oui, à 9h45.
À 9h45, la Cour va se prononcer sur la période d'éligibilité d'Alexandre Bissonnette avant de pouvoir obtenir une libération conditionnelle. Le premier juge avait estimé que 40 ans était la bonne période. Alors, les avocats de M. Bissonnette jugent que c'est trop élevé. On attend ça. Ça va être une décision hyper importante de la Cour suprême.
Est-ce que tu as le temps de me parler de ce policier qui a été ciblé pour une deuxième fois par des projectiles?
Ben oui, j'ai le temps de t'en parler. Il faut absolument en parler, en fait, parce que c'est bien curieux. Hier, c'est mon collègue Maxime Delan qui a appris ça. Il y a un policier du SPVM, celui-là qui avait été désarmé, battu à coups de barre de fer à l'hiver 2021. Tu sais, dans cette affaire où on avait arrêté faussement, on l'avait arrêté pour vrai, mais avec des informations erronées, Mamadi Camara, là, qu'on l'avait fait passer un sale temps en prison parce qu'on pensait qu'il avait tiré sur un policier, finalement, c'était pas lui. Alors, le policier qui était visé dans la première attaque de 2021, c'était Sanjay Vig, donc un agent extrêmement connu là du service de police, et c'est un homme qui faisait une opération routière là quand il a été, et là écoute, il fait une autre opération de sécurité routière hier près de Saint-Patrick et Stirling, et là il se trouve à l'extérieur de son autopatrouille mais pas si loin de l'auto, et là il entend deux détonations, il y a deux projectiles qui fracassent la vitre arrière de sa voiture de police. Il pourrait s'agir d'un fusil à plomb. ou une arme de très petit calibre. On sait pas d'où les tirs sont venus. Je peux te dire que quand ça arrive, ça, le policier capote sur un temps rare. J'ai hâte de voir comment l'enquête...
Pourquoi on l'a ciblé, lui, deux fois?
C'est la question qu'on se demande. Tu sais, pourquoi lui? Est-ce que c'est un hasard que Sanjay Vig ait été ciblé deux fois?
Est-ce qu'il était mêlé dans des affaires louches puis tout ça?
Non, c'est ça, justement. On ne peut pas dire ça de Sanjay Vig. On ne peut pas dire qu'il a été mêlé à des affaires louches. Fait que c'est un peu compliqué d'avoir le fin mot sur ce qui s'est passé là, mais je le répète, quand tu prends la décision de tirer sur un policier, t'as franchi une limite que peu de criminels franchissent, même si ce sont des projectiles de plomb. C'est vraiment très grave.
Ben oui, tout à fait. Merci. Excellent week-end. Bon week-end.
Moi aussi.
On se parle lundi, Félix. Merci.